va se quitter car il y a un flash spécial tout de suite.
On apprend à l'instant une information hallucinante. Un avion de tourisme s'est écrasé cet après-midi dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York.
Un deuxième incident, un deuxième avion, 15 minutes plus tard, qui aurait percuté la deuxième tour du World Trade Center. Dans le ciel de New York, en ce moment même, un double panache de fumée s'échappe des deux tours les plus hautes de la ville.
Voilà, nous sommes le 11 septembre 2001, il est à peine 15h. Romain Desarbres, qui était déjà sur Europe 1 à l'époque, prend l'antenne pour annoncer. À l'époque, vous en avez bien entendu, il parle d'un avion de tourisme. On a encore ce message-là. Et puis, en fait, on va vite réaliser qu'il s'agit d'avions de ligne lancés à plus de 900 km/h à un quart d'heure, 20 minutes d'intervalle dans les tours du World Trade Center. Demain, cela fera 20 ans. Quel bilan tiré de ces deux décennies de guerre contre le terrorisme? Avec nous, deux experts pour en parler ce matin. Bonjour Bernard Rougier.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, auteur d'un livre paru l'an dernier, Les territoires conquis de l'islamisme, aux presses universitaires de France. Didier François aussi. Bonjour Didier.
Bonjour.
Grand reporter à Europe 1, spécialiste des questions de défense et de terrorisme. Didier, vous avez couvert l'invasion américaine en Afghanistan en 2001,
oui.
L'Irak en 2003, les printemps arabes, 20 ans de... Je ne refais pas tout le CV parce qu'il est quand même conséquent.
Ça fait long, oui.
20 ans de guerre contre le terrorisme. Alors, un cycle que Joe Biden est en train de clore avec le départ d'Afghanistan. Quel bilan global peut-on tirer de ces 20 années, Didier?
Alors, c'est un bilan extrêmement contrasté parce qu'en général, on mélange deux choses. C'est-à-dire, la guerre contre le terrorisme, finalement, enfin, en termes de capacité à avoir brisé les possibilités de projeter de la menace, c'est-à-dire de faire des attentats de grande ampleur, de type justement du 11 septembre, c'est-à-dire quand même planifier sur plusieurs oui. mois avec des moyens considérables, le détournement de 5 avions, etc.
J'ai oublié de rappeler le nom de l'auteur, Al-Qaïda bien sûr,
absolument.
Et Oussama Ben Laden, mais tout le monde le sait maintenant,
voilà,
aujourd'hui.
Et je pense que Bernard vous l'expliquera dans le détail justement avec Khalid Sheikh-Mohamed et d'autres. Comment ça s'est passé? C'était pas quelque chose de naturel chez eux au départ. Mais donc cette espèce d'énorme opération, quand même, pour une organisation que très peu de gens connaissaient à l'époque, à part les spécialistes, ça n'existe plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, Al-Qaïda n'a plus cette capacité à monter des attentats coordonnés, lointains, particulièrement aux États-Unis. Bon, après, il peut encore actionner d'autres types d'attentats, ce qu'on appelle le loup solitaire, etc., etc. Mais les capacités, et le I aussi. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que cette lutte antiterroriste. Que ce soit pour l'État islamique ou Al-Qaïda, leur capacité territoriale et leur capacité d'avoir de la planification, de l'organisation, du financement et de la projection en arrière, ça a fonctionné. L'énorme échec dans cette guerre contre le terrorisme, c'est que à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on commence une guerre contre le terrorisme, on la fait basculer ensuite en espèce de guerre contre-insurrectionnelle parce qu'on occupe et on voudrait faire du changement de régime dans les pays qui ont au départ abrité les organisations terroristes. On l'a fait, c'était le cas en Afghanistan, et on voit l'échec qui se termine maintenant avec le retrait des troupes occidentales et américaines, donc quand même, alors que c'est la première fois que l'OTAN avait justement utilisé son article 5 de solidarité occidentale, donc là, c'est quand même un vrai problème. On l'a vu en Irak, où l'invasion américaine en Irak a provoqué cette espèce d'énorme guerre, et puis bon, on peut penser que toutes ces interventions-là, si la différence aussi entre Serval et Barkhane, on peut penser qu'aujourd'hui, ce qui a été un échec, c'est plutôt les guerres et les occupations qui ont lieu après les interventions antiterroristes, et qu'en revanche, la lutte contre le terrorisme et le démantèlement des structures opérationnelles des organisations terroristes fonctionne.
Menées sur zone par des équipes de forces spéciales, comme on le voit aujourd'hui au Mali.
Et du renseignement, beaucoup de renseignements.
Et comme les Américains l'ont fait pendant 8 ans en Afghanistan, on l'oublie avant de se retirer. Bernard Rougier, est-ce qu'aujourd'hui on sait tout du 11 septembre 2001?
Non, on ne sait pas tout du 11 septembre. D'abord, paradoxalement, quand cette opération s'est décidée et quand elle a été évoquée dans le Majlis Ashura, c'est-à-dire le conseil consultatif d'Al-Qaïda, beaucoup de membres, au moins la moitié de ce conseil, sont opposés à cette opération. Pour une raison très simple, ils considèrent que Ben Laden a fait allégeance au Mollah Omar et que seul le Mollah Omar peut prendre des décisions engageant la communauté des croyants.
Donc le chef des talibans qui dirige l'Afghanistan entre 1996 et 2001.
Et une décision pareille doit être soumise à l'approbation préalable des talibans. Et quand on dit ça à Ben Laden dit écoutez, oui, j'ai prêté allégeance, mais le djihad est une valeur bien supérieure à tout type d'engagement et de contrat, et donc nous devons continuer la lutte, c'est une priorité. Et Ben Laden a pour idée d'attirer les États-Unis en Afghanistan sur le plan militaire, pour gagner une seconde guerre après les soviétiques dans les années 80, ça serait les milliers.
Il
veut les attirer, et c'est tout à fait conscient. Il le dit à ses proches.
Il est conscient qu'il va nuire à son autre taliban.
Il y aura une destruction de l'émirat des talibans. Il considère que c'est un moindre mal par rapport à l'avantage du djihad contre les Américains, et à la perspective d'une victoire lorsque les Américains feront une opération au sol pour se venger du 11 septembre.
Dans une logique finalement un petit peu marxiste, consistant à dire
absolument,
on va montrer au monde entier que les Américains sont des brutes, quoi.
Exactement. Donc il y a ce calcul assumé. Et sur cette idée d'utiliser des avions comme arme de guerre, des avions de transport civil comme arme de guerre, c'est une idée qui est proposée par Khaled Sheikh Mohammed, qui est actuellement en procès à Guantanamo.
Un procès, si on peut dire.
Un procès entre guillemets. Et au départ, cette idée ne déclenche pas l'adhésion. De la même manière, quand il est au Soudan et qu'il voit l'opération ratée de 93 du World Trade Center par le neveu...
Attentat à la bombe, dans les sous-sols du World Trade Center.
Par Ramzi Youssef, qui est le neveu de Khaled Sheikh Mohammed, il regarde cette information avec indifférence. Et c'est une information, c'est le crash d'un avion de ligne égyptien en octobre 99, où il y a un soupçon...
À Sharm el-Sheikh, c'est ça ?
Juste dans l'océan Atlantique, peu après le départ de New York. Il y a 30 officiers égyptiens qui sont dans cet avion. Il est persuadé que c'est un acte suicide du pilote, et à partir de 99, il adopte l'idée et il va commencer à mettre tout en œuvre pour organiser cette opération.
Didier François, ce récit est intéressant parce que ça bouleverse un peu la perspective que l'on avait sur, en tout cas, les rapports entre Al-Qaïda et les talibans.
Oui.
Et donc il y a une trahison d'Al-Qaïda à l'égard des talibans.
Tout à fait.
Ça pose la question sur aujourd'hui la cohabitation entre l'organisation terroriste qui est toujours là, qui entretient, dit-on, de bonnes relations avec les talibans qui viennent de retourner en Afghanistan.
C'est Al-Qaïda entretient toujours des bonnes relations avec tous ces alliés quand elle en a besoin. Après, quand elle en a plus besoin, ça se gâte. C'est toujours comme ça que ça se passe avec eux. Et donc, mais par ailleurs, effectivement, c'est un calcul extrêmement cynique, mais ce qui est le propre des organisations terroristes, qui a fonctionné. C'était de dire, grosso modo, si on s'affronte seul militairement avec les Occidentaux, on perd. Tous les affrontements qu'ils ont déclenchés ont été perdus et ils l'ont payé très cher. En revanche, s'ils arrivent à entraîner les Occidentaux dans une lutte non plus simplement contre eux, mais contre une population qui comprend pas vraiment ce que les Occidentaux viennent faire chez eux, parce que alors justement que ça soit, même si c'est pour des motifs extrêmement moralement comme l'éducation des femmes en Afghanistan, mais qui s'oppose à la tradition de la société locale, si on ne s'appuie pas sur des réalités locales, et bien évidemment, on se crée des ennemis, et c'est ça que veut Al-Qaïda.
On va parler maintenant aussi de ce djihad qui aujourd'hui se joue chez nous. Précisément, Bernard Rougier a beaucoup travaillé sur ce point-là. On se posera aussi de la question de comment les militaires français aujourd'hui perçoivent la menace terroriste. Vous allez voir, le point de vue va peut-être vous surprendre. 8h48.